Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Marc Bisset qui est à la technique de cette émission. Et cette émission va être, dans un contexte très particulier parce qu'on ne peut plus maintenant se poser qu'une seule question. Maintenant que la vérité judiciaire est apparue avec l'acquittement de Sacha Roul la semaine dernière dans l'affaire de l'assassinat de Gilles Andruet. Qui a tué Gilles Andruet? C'est une affaire extrêmement complexe. Je le disais il y a un instant, Gilles Andruet était un garçon très connu dans le monde des échecs, mais il n'y avait pas que ses talents-là. C'était quelqu'un qui avait, si on peut dire, la bosse des maths. Il est devenu d'ailleurs un joueur gagnant pendant quelques années dans les casinos avant de perdre et d'avoir des difficultés sur lesquelles on reviendra dans un instant avec Jean-Claude Andruet. Bonjour Jean-Claude Andruet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, à la fois pour décrypter le procès qui vient d'avoir lieu, où Sacha Roul était donc accusé d'un meurtre qui a eu lieu en août 1995, celui de votre fils. Et puis, il faut revenir sur les détails et les méandres de cette affaire qui a duré aussi longtemps, puisque dans cette affaire, on a une personne qui a été condamnée à 15 ans en 2003, qui a été acquittée en appel. Une autre personne qui était mise en cause, qui s'est suicidée en 1996, donc, pardon.
Et il y a aussi un garçon, le fils de Joseph Liani, qui a été condamné à 7 ans, qui n'a pas fait appel.
Lui. Absolument, lui, c'était pour non-dénonciation de crime, si mes souvenirs sont bons. Bon, voilà. Et puis, il y a eu, il y a quelques années, une condamnation par contumace à 15 ans de prison de Sacha Roul, mais qui était en fait au Maroc, où il avait la double nationalité, et il a été extradé en 2010, on va revenir sur tout cela, pour se présenté devant ses juges donc la semaine dernière. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui?
D'abord, concernant l'extradition, si vous me permettez, je vais vous dire, lors du premier procès, le président nous a dit que la police française le recherchait depuis une dizaine d'années, également Interpol. Et puis moi, j'ai un ami journaliste qui est venu me voir. À l'époque, j'avais un bureau à Saint-Raphaël, qui est venu me voir. On n'avait aucun élément en main, et en 2 heures de temps, en demandant un téléphone sur Saint-Tropez pour avoir quelqu'un qui connaissait un peu le milieu de Saint-Tropez, on a retrouvé la trace de Sacha Roul qui était au Maroc. Donc, si vous voulez, je ne peux pas ne pas avoir le sentiment que il y avait, on se moquait de nous à ce moment-là.
Oui. Enfin, en tout cas, qu'il y a eu des dysfonctionnements dans.
Majeurs, à mon avis. Alors, par contre, je dois vous dire que moi, j'ai jamais lâché parce que je trouvais ça trop injuste et trop gros. Par contre, je sais pas par quel miracle j'ai réussi l'extradition et je n'en ai aucun mérite. Je pense qu'il y a certainement une belle âme. J'ai une idée sur cette belle âme, mais je n'ai aucun élément. J'ai une belle âme qui, dans la discrétion, a certainement interpeller le sommet de l'État français pour obtenir ça, parce que je vois pas comment ça a pu, j'ai pas d'explication en dehors de ça. Donc je n'en ai pas le mérite, j'ai simplement continué à espérer que j'y arriverai.
Alors, on va revenir sur tout cela, sur le procès avec vous, Cindy Hubert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi le procès pour RTL, et je vous propose là d'écouter tout de suite ce que vous disiez, vos explications sur l'antenne d'RTL jeudi dernier. C'était donc l'épilogue de ce feuilleton judiciaire qui durait depuis 18 ans. Écoutons donc Cindy Hubert, c'était donc jeudi dernier.
Le verdict a été accueilli en silence par Jean-Claude Andruet, l'ancien champion de rallye, sanglote en silence. Il n'est pas surpris, l'avocat général avait déjà demandé un acquittement ce matin, mais la douleur est là, intacte.
Mon fils a été massacré dans des conditions horribles. Voilà, ces personnes. Mais mon fils, il n'est pas là, lui. Et il ne reviendra jamais.
Pendant 5 jours, la Cour s'est confrontée au manque de preuves dans ce dossier d'éléments formels pour condamner Sacha Roul. Monsieur Andruet, votre soif de justice ne peut pas être étanchée par la condamnation d'un innocent, a dit son avocat, maître Éric Dupont-Moretti. L'homme de 42 ans, franco-marocain, est apparu très soulagé.
Enfin, après 20 ans d'attente, enfin acquitté au Maroc, acquitté ici, les preuves, il ne pouvait pas y en avoir. C'était, je suis innocent.
Ce soir, le dossier Andruet se referme donc sans qu'aucun coupable n'ait été désigné par la justice, 18 ans après le drame.
Nous allons revenir en détail sur toute cette affaire dans un instant, bien sûr, avec Jean-Claude Andruet et avec Cindy Hubert, qui est ici avec nous dans ce studio d'RTL. À Lille, dans les bureaux de la rédaction de La Voix du Nord, Éric Dussard. Bonjour. Non, il n'est pas encore là. Il va être là dans quelques instants. Et puis nous entendrons également dans l'émission, bien sûr, la réaction de Éric Dupont-Moretti, puisque je le disais tout à l'heure, c'était le 122e acquittement dans sa carrière d'avocat, mais on lui a demandé, c'est Margot Agnès qui l'a joint ce matin au téléphone, de nous expliquer à son avis sur quels éléments concrets du dossier la justice avait pu pencher pour l'acquittement de son client. Je voudrais, Jean-Claude Andruet, tout de suite, au début de cette émission, qu'on revienne sur la personnalité de votre fils. Il avait 37 ans quand il a été assassiné, et c'était quelqu'un qui avait été, depuis pratiquement le début de sa vie, quelqu'un d'extrêmement prometteur, la bosse des maths et la bosse des échecs.
Oui, il avait vraiment un don particulier, et puis il avait un intellect hors du commun, quoi. Tout jeune, il m'avait impressionné, vraiment, même par ses réflexions et tout ça. Donc, je veux dire, dès la première, sa première classe, il a toujours été premier, tout ça. Et puis, il avait des facilités qu'on ne pouvait même pas imaginer, quoi. Et à un moment donné, quand j'ai
récupéré... Une mémoire phénoménale.
Ben, enfin, oui. Et puis moi, vous savez, je l'ai vu jouer en regardant un mur contre plusieurs joueurs à la fois, ouais. Gagner les parties d'échecs sans regarder un seul, en regardant que le mur. Quand vous voyez ça, vous savez que vous partez en marchant difficilement parce que vous pensez que vous n'avez pas grand-chose vous dans votre tête par rapport à ce garçon. Ouais. C'est vraiment impressionnant.
Champion de France 1988, grand maître international. Ouais. Il a été le coach aussi de l'équipe de France féminine.
Et puis, à sa mort, j'ai reçu énormément de témoignages de filles de l'équipe de France qui m'ont dit combien il était, il savait les entourer, qu'il avait, il était très tendre, Gilles. C'était pas quelqu'un de violent, au contraire, il était très très doux. Et puis, mais par contre, il tenait ça de moi aussi. Je pense qu'on sait réfléchir tous les deux, mais nous sommes très très naïfs, quoi. Je veux dire, il avait une grande naïveté aussi. Il n'y a que quand on est vraiment mis en éveil qu'on réalise, et notamment là, je pense qu'il avait dû comprendre que ça serait difficile peut-être de récupérer son argent, puisqu'il devait revenir vivre avec moi, et je pense que c'est ce qui a été la raison de sa mort. Oui.
Alors on va revenir sur tout cela, parce que cette affaire d'argent, c'est une part dans la vente d'une maison familiale. Il était interdit bancaire à ce moment-là, il ne pouvait donc pas déposer le chèque qu'on lui avait donné sur un compte en banque. Il a cherché dans le milieu des joueurs, puisqu'il fréquentait beaucoup les casinos, on y reviendra dans un instant, il avait cherché quelqu'un qui pourrait peut-être lui ouvrir un compte. C'est ce qui a été fait, et peut-être pour son plus grand malheur. On parle de tout ça ensemble dans un tout petit instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Qui a tué Gilles Andruet? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pour la justice, en tout cas, il y a eu plusieurs procès, il y a eu des condamnations qui ont été suivies d'acquittements en appel. Donc demeure évidemment la question. Il y a la vérité judiciaire d'un côté, la vérité tout court de l'autre. Je disais tout à l'heure que Cindy Hubert avait suivi ce procès et cette affaire pour RTL. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur la personnalité de Gilles Andruet pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel, comme le disait Jean-Claude Andruet, dans un instant, il a peut-être rencontré les mauvaises personnes au mauvais moment. Il y avait ce côté, j'allais dire, cette face brillante et éclairée du grand maître des échecs, du Mozart des échecs. D'un autre côté, il y avait les casinos.
C'est ça, je crois que c'est un des anciens avocats de Jean-Claude qui disait « fantasque mais pas fou ». Sur Gilles, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une mémoire absolument phénoménale, qui est capable de passer son baccalauréat sans stylo, sans cahier, en allant faire le marché avant de appeler par son père et qui finit par retourner pour passer ses épreuves. Donc quelqu'un vraiment avec une intelligence folle, un joueur génial qui finit par se tourner vers les casinos et donc les jeux vont mener à sa perte. Il joue, il gagne beaucoup, il en perd autant. Et donc très vite, il est criblé de dettes. Il perd pied dans la dernière année. Il va vivre dans sa voiture, c'est-à-dire toute sa vie est dans sa voiture. Quand on va retrouver cette voiture, il y a toute sa vie dedans. Le coffre est rempli, il y a toutes ses affaires personnelles. Et c'est comme ça qu'il fait des mauvaises rencontres.
Oui. Alors, et cette affaire d'argent, alors cette histoire d'héritage, c'est-à-dire qu'il finit par être interdit bancaire à cause de ses dettes de jeu.
Il est interdit bancaire et deux personnes se proposent de lui ouvrir un compte. C'est une banque marocaine à Paris, Franck Liani notamment, qui est donc quelqu'un qu'il a rencontré dans un de ses casinos. Et après la mort de Gilles, trois jours plus tard, le compte est vidé. Et on se rendra compte que c'est notamment Franck qui a vidé ce compte bancaire, 400 000 francs.
Oui, parce qu'il avait une procuration. Donc
il avait une procuration, 400 000 francs, qui venait juste de toucher d'un héritage.
Voilà, ouais, il avait eu la naïveté de signer une procuration. Et je dois vous dire que au début, lorsqu'il s'est mis à jouer au casino, évidemment, malheureusement pour lui, il a gagné des sommes incroyables et automatiquement, il a été repéré par les gens qui jouaient comme Joseph Liani.
Alors attention, disons-le, il n'était pas tricheur. Il ne trichait pas, mais il avait une mémoire tellement phénoménale,
casino, bien sûr.
La mémoire des cartes et qui lui a fait faire des exploits au blackjack notamment.
Les casinos, vous savez, ils n'aiment pas surveillent de très
même
près.
Même ceux qui ne trichent pas, quand on gagne trop, ça ne va pas.
Voilà, les joueurs, ils sont pas...
C'est interdit d'ailleurs dans plusieurs casinos à cause de ça.
Bah oui, parce que ils disent qu'on n'a pas le droit de compter les gars, ils faisaient rien de. Voilà, donc, mais c'est après, quand sa vie a dérivé, que là, à mon avis, son cerveau fonctionnait plus de la même façon et qu'il a perdu de l'argent. Oui. Et voilà, moi, c'est une période pendant laquelle, moi, justement, j'appréciais pas son attitude et on ne se voyait plus pendant 3 ans. Oui. Et voilà. Et il m'a appelé au secours un mois avant. Et il devait venir revivre. Chaque semaine, il a reporté en me téléphonant et parce qu'il avait certaines choses à régler.
Vous étiez rendu compte en tant que père que là, il y avait vraiment un appel au secours parce que il vous a appelé une première fois, vous n'avez pas répondu, mais finalement, il appelle 3 fois en très peu de temps. Et là, vous vous dites, bon, il y a quelque chose de...
J'étais vraiment fâché, je refusais. Mmh. En plus, cette maison, je l'en avais fait hériter à ma place, mais je voulais qu'on la garde en souvenir. Mmh. Et la personne qui avait voulu nous la donner, et donc il n'a pas tenu cette promesse, donc j'étais très en colère.
Parce que ça représentait pour lui 60 000 euros.
Ça représentait beaucoup plus que ça. C'était la dernière échéance.
D'accord.
Mais... moi, je refusais de le prendre au téléphone, mais il est resté un moment sans m'appeler aussi. Mmh. Et puis, le jour où il m'a appelé, un mois avant sa mort, et il m'a appelé, et j'avais refusé Il y a un premier appel, je refuse. Le deuxième, immédiatement, je refuse encore de le prendre. Et il me rappelle une troisième fois. Donc là, je me dis, là, attention, là, ça doit être très grave. Et évidemment, il m'a dit, papa, ça va pas, je voudrais te voir. Ouais. Et donc.
Et là, vous lui avez proposé de revenir près de
assez
vous.
C'est dur quand je parle de ça, bien entendu.
Oui, bien sûr,
et moi, j'avais, ouais. On me proposait, alors que je ne courais plus à l'époque, on m'avait proposé. Fiat m'avait proposé de faire un rallye dans le Mâconnais et je lui ai donné rendez-vous pour le lendemain soir à Mâcon, à la gare TGV. Mmh. Et on devait faire ce rallye ensemble, puisque souvent dans sa jeunesse, il venait reconnaître avec moi. Puis les seules vacances que j'ai prises dans ma vie, c'était avec lui. Mmh. Donc, on devait le faire. Et puis, il y avait un président dans cette association qui s'est très mal conduit. Et donc, j'ai refusé de faire ce rallye. Je suis rentré. Gilles était un petit peu déçu, évidemment, de ça, mais on a pu discuter pas mal. Cela dit, j'ignorais complètement sa vie. Évidemment, il m'a pas parlé de ce chèque de 400 000 francs, puisque c'était concernant un sujet qui était délicat entre nous. Ouais. Moi, j'étais pas très content. J'aurais pas pu être content qu'il me rappelle qu'il avait vendu cette maison, bien sûr. Mmh. Et mais il a eu la naïveté de signer une... Alors, il connaissait Joseph Liani, qui avait voulu se rapprocher de lui, parce qu'il était performant, c'est tout, voilà. Et son fils, donc, il leur a demandé s'il pouvait l'aider, et puis il a signé une procuration, malheureusement.
Okay. Alors, on va faire une pause dans l'émission, dans un petit instant, avec Cindy Hubert, et ensuite avec Éric Dussard, qui se trouve maintenant dans les bureaux de la rédaction de La Voix du Nord. On va parler des personnages dont vous entendez le nom, déjà, depuis le début de cette émission, qui étaient vraiment Joseph et Franck Liani, un père et un fils... au passage, qui se détestait cordialement, mais ça, Cindy Hubert va nous expliquer ça dans un instant. On va parler aussi de Loïc Simon, qui a été un employé d'un certain Sacha Roule, et on demandera à Éric Dussard de nous dire dans quelles circonstances Sacha Roule a été impliqué dans ce dossier. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous retrouvons Jean-Claude Andruet, le père de Gilles Andruet, assassiné à l'été 1995. Cindy Hubert, qui a couvert ce procès pour RTL. Dans un instant, on va à Lille rejoindre également Éric Dussard de La Voix du Nord, qui a couvert le procès et qui a eu à l'issue du procès un entretien avec Sacha Roule. On va finir par parler de lui, mais pas trop tôt, parce qu'il faut qu'on comprenne bien comment les différentes pièces du puzzle se sont... associés ou dissociés pendant toutes ces années. On va faire un bond dans le temps. Je voudrais qu'on écoute, avant de donner la parole à Cindy Hubert, un document de la rédaction d'RTL qui date du 7 novembre 2003. Ce jour-là, c'est l'ouverture du procès de deux des assassins présumés de Gilles Andruet devant la cour d'assises de l'Essonne, deux personnages dont on va parler dans un instant plus complètement, Joseph Liani et son fils Franck. Et sur RTL, à l'occasion de l'ouverture de ce procès, Xavier Benerozzo évoquait le scénario du meurtre tel qu'il était présenté dans l'acte d'accusation.
Gilles Andruet, retrouvé assassiné à l'âge de 37 ans dans une rivière près de Longjumeau, est mort deux fois. Champion de France d'échecs en 88, attachant et irritant, fantasque et désinvolte, comme l'a décrit le juge d'instruction Marc Mulet, Gilles Andruet a d'abord été tué par sa passion du jeu, le blackjack, au casino d'Anguin à Deauville, l'argent facile gagné à Las Vegas, puis la terrible dégringolade, la ruine, les dettes, l'interdiction dans de nombreux établissements de jeu, un compte bancaire fermé et vide, puis l'obsession de se refaire, grâce à un chèque, 400 000 francs à l'époque, sa part de la vente d'un pavillon familial. Le jeu a tué Gilles Andruet, ou plutôt, il a mis ses assassins, des amis, des gens qu'il admirait, sur sa route. Ce sont eux qui ont permis aux joueurs désargentés d'ouvrir un compte bancaire pour toucher son héritage. Ensuite, toujours à cause de l'argent, selon l'accusation, Joseph Liani, épaulé par son fils, a drogué la victime avec des somnifères, puis ils l'ont battu à mort avec une batte de baseball. Ils ont enveloppé le cadavre dans une alaise et jeté le tout dans la rivière. Sur le linge ensanglanté, des empreintes génétiques, celles du champion d'échecs, mais aussi celles de ses bourreaux.
Alors, Cindy Hubert, on va reprendre tout ça pour que vous nous disiez qui est Joseph Liani, qui était Franck, son fils. Comment les policiers sont-ils arrivés pendant leur enquête à eux?
Alors là, on parle d'empreintes génétiques. En fait, ce qui va se passer, c'est que plusieurs années après, on retrouve un poil. Sur ce poil, il y a un ADN. Au début, on pense que c'est l'ADN de Joseph Liani, qui est donc effectivement un joueur qu'a fréquenté Gilles. Et en fait, rapidement, on se rend compte que c'est un ADN partiel, c'est-à-dire qu'il peut orienter vers deux personnes. Qu'on arrive vers Sacha Roule. Oui. Donc, Joseph, qui est l'oncle de Sacha, Joseph... mais ça ne vient qu'après.
D'accord, alors juste un mot là-dessus, parce qu'on parle souvent de police scientifique dans cette émission. Il y a deux sortes d'ADN, on va dire, cousins entre guillemets. Il y a l'ADN nucléaire, là c'est vraiment le juge de paix. Une personne a une signature ADN avec une marge infime d'erreur. Et puis l'autre ADN qu'on appelle mitochondrial, ça c'est l'ADN qu'on retrouve chez toutes les personnes qui sont de la même lignée maternelle, et évidemment, puisque l'un est l'oncle de l'autre, on est dans la logique. Alors, ensuite...
Donc on a déjà deux accusés, ouais. Joseph, puis Sacha, et ce qui va aussi orienter les enquêteurs, c'est ce témoin, un des derniers témoins qui a aperçu Gilles, dans une voiture. Dans la voiture, il y a Gilles, il y a Joseph, elle l'identifie formellement, et il y aurait Franck qui retire donc de l'argent 3 jours après sa mort. Dans ce drame, il y a aussi un quatrième personnage qui est Loïc Simon, qui serait l'homme de main, qui serait l'homme qui aurait lui-même tué Gilles Andruet.
En tout cas, il s'en était vanté, je crois, auprès de personnes qui sont venues témoigner.
Il s'en vante et il dit « j'ai tué un joueur d'échecs ». Et se suicide en 96.
Voilà. Et il était un des employés de Sacha Roule dans le cadre d'un restaurant.
C'est ce golf de parisien. L'étoile, c'est le nœud de l'histoire, c'est là où se croisent tous les personnages. Et qui gère ce golf de l'étoile, c'est Sacha Roule.
D'accord. Alors, Éric Dussart, bonjour d'abord.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Bonjour. Le personnage dont on a finalement le moins parlé, alors qu'on fait cette émission parce qu'il a été acquitté jeudi dernier, c'est Sacha Roule. Vous l'avez rencontré, vous avez suivi le procès, évidemment, comme Cindy, pour votre journal La Voix du Nord, et vous avez rencontré, je crois, longuement Sacha Roule. Vous publiez un portrait de lui dans La Voix du Nord, dans l'édition du dimanche. Qu'est-ce que vous pouvez dire comment arrive-t-il à être impliqué dans cette affaire, et par qui?
Eh bien, Cindy vient de nous le dire. En fait, je crois que le premier élément, c'est le témoignage d'un des anciens employés au restaurant parisien qu'il gérait à l'époque. Un homme qui vient dire à la police, moi, j'ai recueilli il y a quelques années le témoignage d'un de mes amis qui s'accusait du meurtre de Gilles Andruet.
C'est-à-dire que... de Loïc Simon, dont on a parlé.
Voilà. Donc ça n'est même pas un témoignage direct. Hein. C'est puisque Cindy l'a dit, Loïc Simon s'était donné la mort un an après la mort de Gilles Andruet. D'accord. Donc il y a là un témoignage indirect qui vient mettre la puce à l'oreille de la police et ensuite vient également cette histoire d'ADN mitochondrial. Donc un ADN qui n'est pas parfait, vous l'avez dit, Jacques, vous l'avez expliqué, un ADN nucléaire, généralement, on ne le discute pas, un ADN mitochondrial, il peut appartenir à deux, voire trois personnes différentes, si elles sont de la même lignée maternelle. Mmh. C'est de cette manière que Sacha Roule est impliqué, et là, on est en 2001, c'est-à-dire 6 ans après le crime.
Ok, je reviens à vous dans un instant, Jean-Claude Andruet, pour qu'on comprenne bien les choses. Bon, votre fils est assassiné, c'est un drame. L'enquête avance, vous apprenez que successivement, le nom des gens qui sont dans le collimateur de la police, pour aller vite.
Bien sûr, oui.
Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire d'autre pour qu'on comprenne bien l'ordre des... Enfin, le fait que toutes ces personnes ont été accusées de meurtre et pour ces charges-là dont on vient de parler?
Bien, les charges étaient accablantes lors du premier procès et elles sont toujours dans le dossier concernant Joseph Liani et Franck Liani.
Et le premier procès qui a donné 15 ans donc pour Joseph Liani vous l'avez dit tout à l'heure, 7 ans pour son fils. Voilà. Franck qui lui-même avait accusé son père. Je disais tout à l'heure que c'était des gens qui ne s'entendaient pas du tout.
Le parcours de Joseph Liani est lourd. Je veux dire, mais... De toute façon.
Et Lourdes, pardonnez-moi, Lourdes, dans quel sens? Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans un milieu, je sais pas, associé au grand banditisme ou
non.
Il n'était pas connu des services de police?
Non, hein. non, mais c'est un personnage impressionnant. Son regard était terrible. Et même Sacha Roul disait que. Il en avait peur quand il était jeune, mais c'est lui qui il avait Gilles pensait que c'était devenu un ami certainement quand Joseph Yanni avait voulu fréquenter Gilles parce que il était performant dans les casinos, voilà, c'est ça. Et en tout cas je vais dire, on a retrouvé, moi j'ai fait l'enquête et j'avais vite compris, alors que j'avais aucun élément dans les mains, j'avais vite compris que le drame s'était déroulé dans la maison de Bonneuil, de Joseph Yanni, et il a vendu sa maison très rapidement après. Et le matin du meurtre, après s'être présenté tout de suite à l'ouverture de la banque, ils étaient devant la porte avant pour retirer l'argent de Gilles. Le lendemain du meurtre, le matin qui a suivi la nuit du meurtre, et je veux dire, en plus, ils font disparaître les lits, alors qu'il y a les écoutes téléphoniques de la femme de Joseph Yanni qui démontre que tout rien n'était prévu. Donc tout ça s'est passé. Alors c'est sous prétexte que l'ADN mitochondrial pouvait appartenir aussi bien à Sacha Roul que voilà, il a échappé à la justice. Alors moi, à l'époque, si vous voulez, il avait fait 4 ou 5 ans de prison. Il y avait aussi une famille derrière qui l'attendait. Vous savez, leur peine en prison va pas me ramener mon fils, malheureusement. Ouais, et sûr. Bon, moi, mais de là à quitter et à verser de lourdes indemnités que le contribuable paye, je veux dire, ça a été dur à digérer.
Ouais, il faut dire que la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne avait confirmé la condamnation à 7 ans de prison de Franck Liani, mais elle avait acquitté en appel le père.
Elle n'avait pas confirmé les 7 ans. Franck Liani n'avait pas fait appel. Donc, il n'avait pas de. Voilà, il a été libéré au bout de 3 ans et demi. Et voilà.
Voilà. Alors, je crois que là, maintenant, on a tous les éléments du dossier en tête. On va faire une pause. Et ensuite, on va en venir à ce procès qui vient de se terminer, donc, jeudi dernier.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors sur quelle base, sur quels éléments de ce dossier complexe Sacha Roul a-t-il été innocenté, acquitté jeudi dernier de cette accusation de meurtre? Il faut dire que le procureur lui-même, l'avocat général Cindy Hubert, avait requis l'acquittement dans son réquisitoire, ce qui est assez rare dans un procès.
C'est assez rare, c'était un réquisitoire modéré et c'est vrai que ça a surpris. Oui. Pas mal de monde, ce réquisitoire.
Voilà. Alors, l'avocat de Sacha Roul, c'est Maître Éric Dupont-Moretti. On va l'entendre tout de suite. Il pouvait pas être avec nous en direct parce qu'il est dans un autre procès aujourd'hui, mais Margot Agnès l'a joint ce matin par téléphone et lui a demandé de nous expliquer sur quels éléments, selon lui, du dossier, précisément, a-t-on pu fonder cette conviction de l'innocence? Écoutez sa réponse.
Depuis des années, on a instillé dans cette procédure l'idée que Sacha Roul était en fuite. Il faut absolument, pour comprendre cette affaire, reprendre la chronologie. Août 95, c'est le crime. Sacha Roul va être entendu en septembre. Très très courte audition par les services de police qui lui parlent de Franck Liani. Il va rester sur le territoire national jusqu'en 97, sans jamais être entendu. Là, il va quitter la France pour le Maroc. Il bénéficie de la double nationalité. Il s'installe au Maroc et là, il travaille comme des forcenés pour faire du Palais Roul ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un établissement splendide. Il s'affiche partout dans son établissement. Il est en photo partout dans la presse spécialisée. Là, il va faire 2 enfants, va reconnaître ses enfants et il va les déclarer auprès du consul de France à Marrakech. Et puis, se développe en France l'idée, soutenue par le papa de la victime, que Sacha Roul est en fuite. Un beau jour, la France va dénoncer au Maroc le crime perpétré sur le sol national français. Sacha Houl va être inculpé par un juge marocain qui va lui faire interdiction de quitter le territoire marocain et qui va d'ailleurs lui confisquer le passeport. Voilà ce que c'est que la fuite de Sacha Houl. En 2001, quand les services de police veulent à nouveau l'entendre, on l'appelle, il prend l'avion, il vient à Nanterre et il est entendu. Et là, il va laisser son adresse au Maroc et son numéro de téléphone au Maroc. Et plus jamais, entendez-moi bien, plus jamais, il ne sera convoqué. Il n'y a pas au dossier une convocation, un procès-verbal relatant un coup de téléphone de la police française afin d'entendre Sacha Houl. Voilà pourquoi c'est scandaleux de dire qu'il était en fuite. Il est donc reparti au Maroc, il a été mis en examen par un juge marocain qui lui a fait ensuite interdiction de quitter le territoire marocain. Et on va découvrir, parce qu'il n'a jamais été convoqué, qu'il a été condamné à 15 ans par la cour d'assises en France sans qu'aucune convocation lui ait été adressé. Et pire que cela, quand l'avocat va apprendre par voie de presse qu'un procès s'ouvre en France, il va demander un renvoi de l'affaire et ça va lui être refusé. Voilà la fuite de Sacha Houl. Et comme élément à charge, je vais vous dire ce qu'il y a. Un témoin indique qu'il a reçu des confidences d'un jeune homme qui s'est donné la mort. Et ce jeune homme qui s'est donné la mort aurait indiqué au conditionnel que Sacha Houl était présent au moment du meurtre. La maman de ce jeune homme qui s'est suicidé explique que son fils avait de sérieux comptes à régler avec Sacha Houl et qu'il était fâché avec lui à raison du fait que Sacha Houl lui avait piqué sa petite copine. Et celui qui relate cette confidence, il a des problèmes psychiatriques et quand, en 2011, le juge d'instruction français a souhaité l'entendre, les médecins s'y sont opposés au motif qu'il était gravement schizophrène. Voilà le seul élément à charge qui pèse contre Houl. Et j'ajoute que nombre de témoins affirment qu'au moment du meurtre, Sacha Houl se trouve dans son établissement au Golfe de l'Étoile. C'est la raison pour laquelle l'avocat général a requis un acquittement extrêmement précis, extrêmement circonstancié.
Mais comme autre élément à charge, il y avait une histoire d'empreinte ADN partielle retrouvée sur la laisse qui entourait le corps de Gilles Andrué, non ?
Alors, absolument pas. On va s'expliquer là-dessus. Houl et son oncle Liani ont le même ADN mitochondrial. C'est-à-dire que ça n'est pas un ADN complet et tous les membres d'une même lignée maternelle ont le même ADN mitochondrial. Mais c'est vrai qu'on découvre un élément sur la laisse qui entoure le corps, mais c'est vrai aussi que l'oncle, le lendemain du crime, va faire louer un véhicule pour se débarrasser de la literie qui se trouve à son domicile à Bonneuil. Donc cet élément-là, il ne pèse pas contre Sacha, il pèse davantage contre son oncle. La difficulté judiciaire, c'est que son oncle a été acquitté, à raison notamment du fait qu'il a lui aussi considérablement insisté sur ce qu'il appelait, et ça l'arrangeait bien, la fuite de Sacha. Ah mais vous comprenez, mon neveu est en fuite, c'est lui. On ne prend pas la fuite quand on n'a rien à se reprocher.
Et à votre avis, qui aurait pu tuer Gilles Andrué alors ?
Il y a un dernier élément dont on ne peut pas faire l'économie. Le compte de ce garçon, près de 400 000 francs, hein, à l'époque on était en francs, a été vidé par les deux Liani, oncle et cousin de Sacha. C'est eux, d'ailleurs, qui ont ouvert le compte de Gilles Andrué. Sacha n'est jamais intervenu pour l'ouverture du compte, on a entendu le banquier. Sacha n'a pas touché un centime dans cette affaire, je dis bien pas un centime. Ensuite, ne me demandez pas qui, quoi, comment. Il semble que ce garçon qui s'est suicidé, dont on parlait tout à l'heure, aurait reconnu être l'auteur du meurtre auprès d'un certain nombre de témoins. Ensuite, Franck Liani a accusé son propre père. Son propre père a été acquitté. Moi, je respecte l'autorité de la chose jugée, je n'ai rien à en dire. Et la culpabilité de Sacha Houl ne peut pas s'induire par défaut. Il n'y a rien contre ce garçon. D'ailleurs, il convient de préciser que la procédure marocaine s'est poursuivie. Il y a quelques semaines de ça, il a été acquitté aussi au Maroc. Vous savez, c'est je l'ai dit en plaidant, au mieux, une vie suspendue et au pire, des morceaux de vie volés. Parce que naturellement, avoir cela comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est absolument terrible. Mais les autorités judiciaires françaises ont été d'ailleurs sidérées quand il a été extradé, de voir et de savoir qu'il était inculpé au Maroc. Et les autorités judiciaires françaises ont été sidérées de constater qu'aucune convocation ne lui avait été adressée. Véritablement, justice a été rendue à Sacha Houl, mais que malgré tout, rien ne peut réparer ces années d'errement. Et d'ailleurs, j'ai vu dans certains médias qu'on continuait. Sacha Houl, le jet-setter, des choses absolument invraisemblables. On a essayé de lui mettre sur le dos ce crime absolument atroce. On est dans le croustillant, le champagne. C'est sûr que si c'était appelé Martin Chombier et qu'il avait été boucher-charcutier à Guéret, jamais cette campagne médiatique n'aurait été développée. C'est une certitude. Mais là, il y avait tout. Il y avait le palais des mille et une nuits, l'exotisme, la fuite, les vedettes qui allaient là. Tout ça, ça ne construit pas une culpabilité. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du mal?
Éric Dupond-Moretti, parole d'avocat, bien sûr, on l'a compris. À ce propos, d'ailleurs, Sacha Roule sera au micro de Marc-Olivier Fogiel ce soir, dans RTL Soir. Évidemment, tout ce qui a été dit ne peut pas annuler un élément. On dit que les faits sont têtus. Il y a eu un assassinat, il y a quelqu'un qui est mort en août 1995 et officiellement, personne n'a été condamné pour ce meurtre. On retrouve Jean-Claude Andruet, Cindy Hubert, Éric Dussard dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors je disais il y a un instant, Jean-Claude Andruet, bien sûr, parole d'avocat, Éric Dupond-Moretti est un avocat brillant et que je crois sincère personnellement, et évidemment très heureux de l'acquittement de son client. On ne peut pas commenter une chose jugée, mais ça ne vous empêchera pas de penser que les éléments qui ont été en faveur de l'acquittement étaient pour vous des éléments accablants. Et on va c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
C'est-à-dire, moi, j'accuse pas du tout Sacha Roule, mais si vous voulez, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui me faisaient poser la question pourquoi il s'était enfui. Parce que, bien entendu, son avocat dit actuellement que on savait où il était. On l'a su une fois que, grâce à Jacques-Marie Bourget et les articles dans Match, on l'a découvert où il était. Mais avant, personne ne savait.
C'est-à-dire que vous avez fait un peu de barouf, comme on dit.
Ah, bien sûr. Si j'avais pas bénéficié de cette médiatisation, là, on ne savait pas. Et même au tribunal, on nous disait qu'on savait pas s'il était au Rajasthan, en Inde ou au Maroc. Ça. Alors attendez, après, une fois que c'est dans Match et tout ça, bien entendu, c'est beau de dire, ah bah attendez, on sait où j'étais et tout ça. Mais c'était pas le cas. Et c'est ce qui me faisait penser que quand on a cette attitude, c'est que on a peut-être quelque chose à cacher. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, concernant...
Vous disiez surtout, pardonnez-moi, prenons le temps de le dire, mais vous disiez surtout, et vous avez toujours dit, d'ailleurs très dignement, c'est une dignité qui a été saluée par tous les journalistes, que ce que vous vouliez, c'était qu'il y ait un procès, et que Sacha Roule se présente devant la justice française. C'était quand même la première des choses que vous souhaitiez.
Voilà, et puis même là, j'étais pas, contrairement à ce qu'ils peuvent peut-être penser, j'en sais rien, mais j'étais pas animé par la vengeance, parce que il a son père, il a sa femme, il a ses enfants maintenant, et c'est pas le même homme 19 ans après, si vous voulez, comme les autres d'ailleurs, et moi j'en sais rien finalement, je sais toujours rien, mais moi j'ai pas envie de faire souffrir des gens qui ne sont pour rien dans le meurtre de mon fils. Ça, c'est... Alors concernant maintenant le deuxième élément qui a été développé par son avocat, je veux dire, quand il dit, le même témoin l'a vu, a témoigné qu'il était dans son restaurant, le même témoin a témoigné que Loïc Simon était avec lui dans le restaurant au même moment, et ça c'est pas, et alors qu'on sait que c'est Loïc Simon qui l'a frappé à bon oeil.
Alors Loïc Simon, on ne saura jamais parce que, rappelons-le, il a été... il s'est suicidé ou on l'a suicidé? C'est une question qui s'est posée dans ce dossier.
J'ai entendu évidemment des bruits là-dessus. Moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus pour pouvoir... Mais bien entendu que... je sais pas, pour la famille, en tout cas, si vous voulez, il y a eu moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une organisation familiale qui a bien fonctionné, et finalement, même si on sait que le crime, concerne des gens qui font partie de cette famille, ça n'empêche que au bout de presque 19 ans, sait toujours pas qui a tué mon fils. Mais moi, encore une fois, je veux dire leur prison ne m'apporte pas d'apaisement. Je veux dire,
ça fera pas revenir votre fils, bien sûr. Cindy Hubert, alors comment vous avez vécu ce procès? Maintenant, je vais vous poser cette question et je la pose en même temps à Éric Dussard, qu'on joindra après à La Voix du Nord. Et est-ce que toute cette affaire qu'on vient de rappeler là, à grand trait, très rapidement, a été vraiment évoqué à fond pendant les trois ou quatre jours, le procès.
Quatre jours. On a eu une galerie de portraits assez étrange, effectivement. Il y a ce Franck, ce Joseph, c'est même Sacha qui les décrit comme des escrocs, des pourritures qui seraient capables de vendre leur mère pour jouer. Il y a cette figure maternelle aussi, qui est la maman de Sacha Roule, qui a un passé d'ancienne prostituée.
Qui est donc la sœur de Joseph Liani.
Absolument, hein, voilà. Et qui aujourd'hui dirige... qui a repris le Palais Roule à Marrakech, toute une figure très exubérante. Il y a le papa qui était l'ex-impresario de Johnny Hallyday. Et ces personnes s'accusent entre elles. C'est vraiment le clan Liani qui est à l'œuvre là-dedans. C'était assez intéressant à démêler les fils de tout ça.
Et en ce qui vous concerne, quand vous avez entendu le réquisitoire de l'avocat général, vous avez été surprise ? Vous attendiez à ça ou pas ?
On n'était pas surpris, dans le sens où même Jean-Claude Andruet nous disait « J'attends rien de ce procès, on a vu toutes les preuves qui tombaient une à une, entre guillemets, les preuves formelles, il n'y en a pas malheureusement. Ça tient sur des témoins qui se rétractent, ça tient sur des toutes petites choses qui ne font pas qu'on puisse accuser quelqu'un.
Alors, on reviendra après à d'autres questions qui se posaient tout à l'heure au standard sur la lourdeur ou la légèreté des peines dans une affaire de meurtre. 15 ans, ça a paru bizarre à un certain nombre de gens. Éric Dussard, donc, on rejoint Lille et la Voix du Nord. Vous-même, comment vous avez vécu ce procès? Quels sont les moments qui vous ont paru les plus importants?
Ben, moi, je suis arrivé dans ce procès par le prisme de Sacha Roule parce qu'il est installé depuis qu'il a été extradé du Maroc dans ma région. Mmh. Il s'est installé à Dunkerque avec femme et enfant. Il vit d'ailleurs pas du tout une vie de jet-setter. Hein. C'est même une vie très tranquille. Il essaie de s'occuper de ses affaires au Maroc d'ici, ce qui est toujours un peu compliqué. Mais bon, voilà ce qu'est sa vie aujourd'hui. Et aujourd'hui qu'il a été acquitté, il prend un peu plus la parole qu'avant. Enfin, on sent un homme soulagé, on sent une famille soulagée. Mmh. Ces gens-là. Aujourd'hui, on le désire d'expliquer des choses qui ne l'étaient pas avant, et notamment cette histoire de fausse fuite, puisque voilà ce que dit aujourd'hui Sacha Roule. Moi, je n'étais pas en fuite. Et si on peut faire une petite remarque, normalement, j'ai bien entendu au début de l'émission Jean-Claude Andruet qui disait avec beaucoup de pudeur que la justice, je ne sais plus quel mot il avait employé, mais bon, on peut penser qu'il y a eu quelques errements, et notamment celui-là, parce que normalement, Jacques Pradel, normalement, ça n'est ni à Paris Match, ni au papa de la victime de retrouver quelqu'un qu'on cherche dans le cadre d'une instruction.
Ah ben là, on est complètement d'accord. Retrouver. Oui, c'est pour ça que je parlais de dysfonctionnement tout à l'heure. Oui,
voilà, on va dire dysfonctionnement.
C'en est un énorme. Hein,
et comme le disait Jean-Claude Andruet tout à l'heure, on est pudique en disant ça. Mais normalement, s'il n'y avait pas eu ces dysfonctionnements, la justice se serait rapidement aperçue de l'endroit où était Sacha Roule, à raison, comme disait Dupond-Moretti tout à l'heure, que par exemple, il a déclaré ses enfants, il y vivait de la manière la plus publique possible. Et là, on aurait eu sans doute une confrontation. Je pense que c'est ça qui a manqué, une confrontation plus longue entre l'oncle et le neveu, d'ailleurs le père et fils Liani, et d'un autre côté Sacha Roule. Je crois que ce qui était déterminant au procès où n'était pas Sacha Roule, c'est que en raison de cette absence justement, les deux autres l'ont chargé et s'appuyaient sur le fait qu'il était en fuite. Mmh. Et ça a été, je crois, l'explication qui a commencé à faire basculer le procès de la semaine dernière.
D'accord. Alors on revient peut-être Cindy Hubert et aussi Jean-Claude Andruet sur les peines qui ont été prononcées dans cette affaire. 15 ans pour Joseph Liani avant que en appel il soit acquitté, 15 ans par contumace, alors qu'en général par contumace on prend lourd, hein, enfin le maximum de la peine dans des affaires criminelles. Pour un meurtre, quand on est accusé de meurtre, ça c'est en général plus de 15 ans.
De compromis, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense que oui, c'était là, ça a été une réaction de la police suite au fait que on pouvait lui reprocher de pas de, que de pas avoir sous la main Sacha Roule, mais effectivement les 15 ans ont été jetés comme ça sans qu'il y ait de procès, sans qu'il y ait de et ça bon moi j'y attachais pas d'importance à ce moment-là parce que on l'avait pas entendu et que ça me semblait léger de c'était une peine de symbolique à ce moment-là moi je pense.
Alors on a entendu il y a un instant Maître Dupond-Moretti qui revenait sur les arguments qu'il avait développés dans sa plaidoirie. Qu'a développé votre avocat ?
Bah écoutez, en dehors de ça,
Maître
Bourdon. Alors, je dois vous dire que j'ai rencontré un homme fantastique d'humanité, vraiment. Et son équipe, là, en 4 jours, ils ont fait un travail fantastique et vraiment. Et puis sa plaidoirie. Je ne l'oublierai jamais. Elle était vraiment fantastique. Elle m'a touché. Et je dois vous dire que je lui voue maintenant une grande reconnaissance, vraiment. De même que, si vous voulez, Hervé Denis, avec qui j'ai toujours gardé les contacts et qui était l'ami de Gilles et son premier avocat. Voilà. Donc tout ça, Gilles, j'en profite pour vous dire que il y avait plein d'amis du monde des échecs qui lui ont voué toujours une fidélité à Gilles et les gens qui l'ont. Et ça, c'est pour moi, c'est quand même d'un grand réconfort. Mais il a fait un travail remarquable, Maître Bourdon, mais c'est vrai que c'était le dossier était beaucoup plus difficile lorsqu'on est passé à Créteil avec Joseph Liani.
Cindy Hubert, il n'y a plus de recours judiciaire à partir
pour
de
Joseph,
maintenant
c'est
dans cette
affaire.
Quand
on est acquitté, on ne peut plus faire
on
de
était,
recours.
Voilà.
Non, bien sûr, vous savez, en France, c'est pas à vous que je vais oui, mais enfin,
Les familles ne peuvent jamais faire appel. Les familles victimes ne peuvent jamais faire appel et ça va être certainement un objet de débat après l'affaire Jacquemert,
pense. Oui, bien sûr. Là, on le voit récemment, actuellement, avec certaines affaires. Mais justement, j'ai pas peur de. J'estime qu'en tant que Français, j'ai le droit de critiquer aussi certains règlement de chez nous, et je trouve que le droit français est trop c'est le formalisme qui prévaut, alors que moi je trouve que c'est le fond qui devrait prévaloir, mais voilà je le regrette, c'est comme ça. Alors, donc, vous avez vu, on peut pas, et d'un certain côté, quand vous analysez ça, vous vous dites que la magistrature ou la justice, elle veut, vous savez bien qu'elle veut ne jamais pouvoir se tromper, donc c'est une façon de se protéger aussi.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Andruet. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci Cindy Hubert. On remercie également Éric Dussard qui est à Lille. Merci Éric, et je renvoie les lecteurs de La Voix du Nord à votre site internet où il y a cet entretien que vous avez vu avec Sacha Roule qui sera donc sur RTL tout à l'heure au micro de Marc-Olivier Fogiel pendant RTL Soir. L'émission est maintenant terminée et on va retrouver Flavie Flamand.